Ce qu'il faut à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
Et si on faisait un pas de côté? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. On verrait ce qu'on voit jamais.
Wakadi, on a quelque chose à dire, c'est parti. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, une émission en public à l'occasion du Festival du film ethnographique. 3 jours de programmation pour ce festival décentralisé hors les murs, puisque le Festival du film ethnographique, voir le monde autrement, s'est déroulé, lui, en région parisienne en novembre 2011 avec la projection d'une centaine de films. 30 films sont tout de même projetés à Montpellier, c'est pas mal. Non, c'est pas 30 films ?
C'est une sélection sur
le... Ah, pardon, ça démarre bien. Donc c'est une sélection sur 30 films. Chaque film est suivi d'un débat en présence des réalisateurs. On en a quelques-uns avec nous en plateau, on vous les présentera après. Ces débats sont animés par des membres de l'association Ethnodoc, du comité du film ethnographique et du bistrot des ethnologues. C'est l'équipe du cinéma Nestor Burma à Montpellier, dans le quartier de Celle-Neuve, qui accueille ce festival et qui nous a permis d'installer notre plateau dans ses murs. Ce cinéma municipal a ouvert ses portes en février 2011 et consacre donc la totalité de sa programmation du week-end à cet événement. Pour animer cette émission avec moi, il y aura le Marcel Mauss de la radio, le Lévi-Strauss des micros, qui n'a jamais étudié l'ethnologie mais qui a quand même un avis sur la question. Salut Jean-Jacques.
Salut à tous.
Avec nous aussi le spécialiste de la radioactivité, celui qui est un documentaire à lui tout seul. Salut Boris.
Salut.
Et c'est Monsieur Galade qui assure la technique du plateau. Et surtout, bien sûr, sur ce plateau, pour parler de cinéma, de témoignages, d'implications, d'ethnologie, des invités qui, eux, ont vraiment des choses à dire. Gilles Rémier, qui est ethnologue et qui fait partie de l'association Ethnodoc, qui est organisatrice du festival décentralisé.
Bonjour.
Bonjour. Laurent Pelé, du comité du film ethnographique. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein ? D'accord.
Pour l'instant, ça va.
Et c'est vous qui organisez le festival à Paris, c'est ça ?
Avec tout le monde, on a toute une équipe, oui. Mais
pas tout seul.
Je coordonne, oui.
Voilà. Et avec nous des réalisateurs, c'est-à-dire sans qui ce festival finalement n'aurait aucun intérêt s'il n'y avait pas des réalisateurs qui réalisent des films.
Ouais.
Donc Eduardo Lamora, qui a réalisé un film qui s'appelle Cuba, l'art de l'attente. Un film j'ai plus la date du film.
2008.
De 2008, voilà, qui devra nous quitter peut-être en cours d'émission, on va voir selon le timing. Et ensuite, Blandine Huck et Frédéric Cousseau, qui ont réalisé Un dimanche à Pripyat, d'accord, qui a été projeté aussi tout à l'heure, et qui, eux, resteront jusqu'à la fin de l'émission, je crois.
Oui.
C'est ça, voilà. Voilà, tout le monde est présenté, vous êtes sur Radio Clapas, une émission Wakadi, on a quelque chose à dire, c'est parti pour une heure d'émission.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Bon, alors nous on va pas vous cacher qu'on est un peu stressé. L'ethnologie c'est pas vraiment notre domaine, donc on aimerait, mais je sais pas si ça va être possible. Hein. On va dire rapidement, peut-être que vous nous donniez une définition de l'ethnologie qui soit compréhensible, tu vois ? Il y a une hésitation.
Je ne sais pas si je vais vous déstresser, hein. Mais néanmoins, on va essayer.
Laurent Pelé, allez-y.
Bah, l'ethnologie, en fin de compte, c'est l'étude sociale et culturelle de l'homme, de ses activités sociales et culturelles. Donc, ça comprend aussi bien le monde religieux, c'est aussi ses organisations en société. Et puis, l'ethnologie, c'est aussi toute la partie, étudier, comme je disais, les rituels, mais il y a aussi les parties festives, hein, qui sont parfois plus amusantes tout de même que ces choses parfois ardues que peuvent être l'organisation sociale d'un groupe humain. Donc, dans l'ethnologie, il y a une partie qui se fait aussi de l'étude grâce au cinéma. Et c'est nous, au comité du film, ce dont on s'occupe, de lier le cinéma et l'ethnologie.
Alors la question qui arrivait derrière, en fait, c'est à quoi ça sert ? Parce qu'on a compris ce que c'était, mais à quoi ça sert ? En quoi ça intéresse les gens, finalement ?
Ah, en quoi ?
Les gens qui ne sont pas ethnologues, qui ne sont pas dans cette démarche-là.
Qui n'en vivent pas.
Qui n'en vivent pas bien, comme apparemment vivent tous les ethnologues.
Bah, je ne sais pas si les ethnologues vivent bien, mais néanmoins, à quoi ça sert? Bah, c'est pas une question en fin de compte, parce que tout sert. Hein. Toutes les recherches qu'on peut faire ont un intérêt. Ce qui est important par rapport à l'ethnologie, c'est qu'elle a des implications. Je viens dans le savoir, dans les attitudes, dans les comportements, comment on utilise ces informations par rapport à soi-même pour vivre avec les autres. Aussi, comment on peut faire usage de pratiques dans certaines régions du monde et qu'on peut aussi appliquer chez soi. Et si on n'avait pas les ethnologues, ben, y a beaucoup d'informations qu'on ne pourrait pas avoir.
Alors, je pourrais peut-être compléter ce que vient de dire Laurent par cette idée qu'on pourrait en fait dire qu'il y a une sorte d'ethnologie spéculative qui serait une recherche fondamentale sur, par exemple, l'organisation sociale, c'est-à-dire les relations de parenté, comment les gens se marient entre eux. Voilà une question et en même temps une application très concrète qui serait une sorte d'ethnologie appliquée, on pourrait dire, où effectivement cette question de la parenté peut être comprise comme une construction sociale et effectivement les systèmes d'alliance entre les parents, les choix des époux, par exemple, sont très codifiés et construits. Et ça permet, par exemple, de réfléchir dans les comités d'éthique, dans nos sociétés contemporaines, sur la question de qui est le père, qui est la mère, à qui appartient l'enfant, par exemple. Voilà une application très concrète d'une recherche fondamentale appliquée à un secteur de réflexion sur l'éthique, par exemple, qui est un sujet de société.
Sans oublier qu'il y a une question intime dans l'ethnologie qu'on a appris de Jean Rouch. Et dans le sens qu'on va seulement filmer l'autre, parce qu'en fait nous sommes aussi l'autre. Ça veut dire qu'il faut tourner la caméra vers nous-mêmes pour essayer de capter cet appareil chez nous, que ce n'est pas le cœur, mais c'est l'âme. On peut voir le cœur, l'âme, on ne peut pas la voir. Et c'est pour ça qu'on va chercher dans les modes de vie, les soutils, les danses, les rides, etc. Mais il y a, pour moi, cette côté âme difficile à quantifier par les statistiques, par ce qu'on appelle la science. Et c'est pour ça qu'il faut s'impliquer dans le sens plus proche, je ne vais pas dire de nouveau âme, mais plus proche de notre ventre. Essayer de sortir de là ce qui nous définit.
Je crois qu'on commence à mieux saisir ce qu'est l'ethnologie et sa complexité. Mais néanmoins, moi, il y a quelque chose qui me tracasse encore, c'est la différence entre ethnologie et ethnographie, parce que bon, certains petits malins de l'association Ethnodoc se débrouillent pour que on puisse garder sous silence la fin du mot ethno. Mais alors, comment vous différencieriez les deux? Comment on peut aller jusqu'au bout de notre première représentation et précision, ethnographie? Et maintenant, vous avez présenté ethnologie, présentez-nous s'il vous plaît ethnographie.
Bah, ethnographie, déjà il y a graphie, donc c'est description, c'est écriture, c'est relater par l'écrit ce que l'on a vu sur le terrain. La différence entre l'ethnographie et l'ethnologie, certains ethnologues diraient par exemple que c'est plus l'étude à travers les textes, notamment Lévi-Strauss est allé sur le terrain bien sûr, mais beaucoup de ses écrits sont basés sur des compilations savantes, hein, des constructions extraordinairement précises, scrupuleuses. Mais néanmoins, ça part d'un corpus écrit par d'autres. L'ethnographie, alors en France, bon, c'est vrai que c'est aussi un problème assez français, hein, de faire la différence entre ethnographie et ethnologie, puis on peut même en rajouter un troisième, il y a anthropologie. Dans le monde anglo-saxon, on a résolu le problème, on a mis tout sous le terme d'anthropologie. Par contre, on est beaucoup plus précis dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on spécifie. Hein, on a l'anthropologie juridique, l'anthropologie sociale, l'anthropologie culturelle, et on en a tout un certain nombre. Mais c'est vrai que la frontière est quand même pas si bien définie que ça. On passe, je dirais, facilement de l'ethnographie à l'ethnologie et vice-versa, quoi. Peut-être que Gilles... Ouais. Une autre approche.
Non, je pense que c'est tout à fait juste. En fait, on doit quand même pas mal cet essai de catégorie, en fait, de niveau de compréhension de connaissance de l'homme qui passerait d'un niveau descriptif, c'est-à-dire de rendre compte d'un point de vue qui serait objectif de la réalité sociale qu'on étudie. Ensuite, ça serait le niveau ça, de l'ethnographie, c'est-à-dire vraiment décrire très concrètement ce qui se passe, par exemple un rituel, on prend des notes, etc. Et puis il y aurait un niveau ensuite ethnologique qui serait un second niveau en fait, d'analyse un peu plus théorique, où là on essaierait de comprendre la fonction générale, globale de la société. Et enfin un dernier niveau qui serait celui de l'anthropologie, qui était celui de Claude Lévi-Strauss par exemple, et qui serait une sorte de regard comparé sur l'ensemble des cultures, et au-delà de la spécificité culturelle de chacune, de trouver des points communs à l'homme, sur le plan de vue social, bien évidemment. Je reprends un exemple assez classique, hein, c'est cette idée que toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, très petites, très grandes, amérindiennes, africaines, etc., auraient une règle qui serait un tabou, le tabou de l'inceste, par exemple, qui proscrit des relations sexuelles entre parents proches. Et voilà, cette idée-là serait, d'après lui, un universel, c'est-à-dire qu'il serait partagé par tous les hommes, sauf que la codification de chacune des cultures ferait qu'effectivement, il y aurait des variantes. Et la variante serait le niveau ethnographique, et l'analyse anthropologique serait de dire qu'il y a des invariants de la des structures élémentaires de la relation de parenté. Bon.
Alors là, ça s'appelle une démonstration qui nous a vraiment ébahis. Mais merci beaucoup. Alors on va peut-être venir sur le festival lui-même. On va peut-être pas démarrer sur le festival Autrement le Monde à Paris. 30 ans, 30 films, ça veut dire que ça fait donc 30 ans que ça existe. Vous y étiez, oui. Vous êtes quand même trop jeune pour être au démarrage de ce festival. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse, comment il a démarré il y a 30 ans à Paris?
T'es un flatteur, Jean-Jacques, t'es un flatteur.
Merci pour ma genèse. Comment il a commencé à Paris? Bah, disons que il a un grand frère. Au départ, d'ailleurs, le Festival international Jean Rouch s'appelait le bilan du film ethnographique. Et il a été créé par Jean Rouch en 1982. Mais avant cela, le grand frère, c'est le Festival du Réel, qui avait été créé en 1978, même 1977, à Beaubourg, qui est un festival dédié au documentaire en général. Mais au documentaire, on va dire social. Et Rouch, en 81, trouvait qu'il n'y avait pas assez de films ethnographiques passés au Festival du Réel, donc il a décidé de créer son propre festival. Au Musée de l'Homme, parce que Jean avait la possibilité d'avoir une salle à lui en permanence. Et donc, en 82, s'ouvre le premier bilan du film ethnographique. Jusqu'à 2008, le titre bilan du film ethnographique va être conservé. Et en hommage à Jean, suite à sa disparition en février 2004, on a décidé donc pour mars 2008 d'appeler le festival international Jean Rouch.
Alors, moi j'aimerais, après on reviendra plus précisément là peut-être sur une seconde partie sur pourquoi le décentraliser, pourquoi Montpellier, je crois qu'il y a d'autres villes aussi, enfin sur votre démarche, pourquoi dans ce cinéma et pas dans un autre, enfin sur là-dessus, mais j'aimerais juste faire un pont là, y compris avec les réalisateurs qui sont en plateau. Vous avez parlé de, donc c'était le cinéma du réel, c'est ça?
Oui.
Voilà, dans la définition... dans la définition du film ethnographique et par rapport à la question de à quoi ça sert finalement, y compris donc de faire du cinéma anthropologique ou ethnographique, moi j'aimerais que vous arriviez à nous définir et les réalisateurs aussi en plateau. Est-ce que on est sur quel niveau d'engagement on est en fait? Est-ce qu'on veut faire un film quand on fait un film comme ça? Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est un film militant? Est-ce que c'est un film engagé? Est-ce que c'est un film juste impliqué? À quel niveau on est quand? Est-ce qu'on veut changer les choses ou est-ce qu'on veut témoigner? Est-ce qu'on veut faire réagir? Enfin, voilà. Moi, c'est une des questions que je me pose en ayant vu quelques films comme ça. Qui c'est qui veut répondre?
Moi, je pense que ça dépend vraiment de chacun, chaque cinéaste a sa propre démarche. Hein. La nôtre, en fait, est plutôt une démarche de curiosité. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller voir des endroits qui nous ont, pour une raison ou pour une autre, intéressés. Et on a envie d'aller voir par nous-mêmes et enregistrer ce qu'on va voir. C'est-à-dire, il y a une certaine forme de démarche aussi de voyage. C'est-à-dire, on part vers l'inconnu. C'est-à-dire, on va à la rencontre de l'inconnu et on, et on enregistre ce qu'on va trouver, c'est-à-dire parfois on n'en a aucune idée. Bon, évidemment, en général, on fait quelques petites recherches avant. En ce qui nous concerne, pas tant que ça. Alors c'est pour ça qu'on n'est pas, justement, nous, considérés comme ethnographes. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on ne se considère pas comme ethnographes, parce qu'on on a ni la formation, ni la démarche. Donc voilà, Blandine, je ne sais pas si tu veux.
Oui, après, pour répondre, je pense que de toute façon, engagement, il y a que n'importe comment, quand on décide de faire un film documentaire. Et l'engagement, c'est aussi de donner à voir quelque chose qui nous a paru intéressant et qui nous a paru être assez intéressant et donner envie de le voir, de le montrer en fait. Donc oui, il y a un engagement. Après, selon les sujets, il peut y avoir peut-être quelque chose de militant. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais sans doute... Le désir de faire réagir, oui.
C'est la question du parti pris, en fait. Oui. Par exemple, vous, dans votre film, il y a des partis pris, je pense, dans tous les films, de montage y compris, et de diffusion aussi, qui impliquent des réactions ou pas.
Oui, et c'est, nous, de toute façon, en montant, on essaie toujours de faire en sorte à ce que le spectateur soit libre aussi de se faire son idée lui-même. On ne va pas venir avec une grosse armada pour dire, voilà, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est mal. Ce qu'on veut, c'est que presque, on essaie de s'effacer, enfin c'est peut-être un peu prétentieux, mais on a toujours le désir de rester un peu dans un truc un peu filigrane, pour que le spectateur ait vraiment sa place.
Mais le fait de s'appeler film ethnographique, c'est pas une façon de faire croire à une fausse objectivité, finalement, de faire comme si c'était un film scientifique, on présente un objet, on présente un lieu, une situation, contrairement à un documentaire où là, le documentaire serait plutôt jugé comme subjectif, avec des opinions ou autres, et que là, comme c'est un film ethnographique, on prend tout pour argent comptant, tout est objectif, et finalement...
Si je peux me permettre, là, vous êtes un peu caricatural, parce que déjà, la notion de film ethnographique a énormément évolué. Le film ethnographique dont vous parlez, enfin en tout cas auquel vous faites allusion, c'est effectivement ce qui se faisait jusque dans les années 50, début 60. L'ethnologue, et déjà il n'y en avait pas beaucoup. Ça aussi, il faut quand même relativiser
les choses. Des films ou des ethnologues ?
Des films et des ethnologues. Il faut quand même savoir qu'en France, jusqu'au milieu des années 50, il y avait 3 professeurs en ethnologie. C'était tout. Bon, au niveau des réalisateurs ethnographes, il y en avait un. C'était Jean Rouch. À côté de ça, il y avait par contre les voyageurs qui faisaient du film. Il y avait quelques scientifiques, mais qui étaient vaguement liés à l'ethno, mais ça par relation, mais qui faisaient aussi des films. Et notamment par rapport au monde de l'archéologie.
Excusez-moi, je vous coupe, mais vous êtes en train de dire qu'en fait, la démarche, moi j'ai modestement un doc d'ethnologie. Hein. Voilà.
Donc c'est un bon début. Hein. J'aurais jamais pensé qu'il avait le bac.
Et en fait, le peu de choses, on va dire, que j'ai retenu à quelques années d'écart, c'était justement cette question de ce que disait Boris, la question à la fois de l'observation participante et la question de la distance par rapport à justement l'implication de ce qu'on va y mettre. Voilà. C'était quelque chose qui revenait comme un leitmotiv en disant ne projetons pas aussi trop de nos propres trucs, n'essayons pas trop d'orienter. Voilà. Je ne parle pas du film, moi je parle juste de la démarche. Voilà.
Et c'est quelque chose qui reste. Au début ou maintenant ?
Au début de quoi ?
Aujourd'hui ?
Début du Doug.
Au début de mon Doug.
Au début du Doug. Alors, a priori, il y avait déjà beaucoup de changements au début du Doug.
C'était pas les années 50.
Il y a quelqu'un autour de cette table qui a eu la même formation que moi, qui a pas eu le même parcours à la fin, mais quand même.
Je vais reprendre la parole pour la déformer, bien évidemment, votre question. Et je vais la resituer dans le débat du festival, en fait, parce que là, on s'écarte un peu sur l'histoire d'ethnologie. Bon, je pense que c'est pas le lieu. Moi, ce que je trouve intéressant dans la question que formule Boris, c'est cette idée de, finalement, est-ce que le cinéma permet de reformuler l'ethnologie ? Voilà. Ou quelle question le cinéma pose à l'ethnologie ? Voilà, ça, c'est personnellement ce qui m'intéresse dans la démarche de cinéma et de la fusion de l'ethnologie et du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des démarches qui sont quand même relativement proches, et vous l'avez évoqué, Blandine et Frédéric, avec cette idée que, par exemple, un anthropologue a cette idée de... Bien évidemment, il a des hypothèses de recherche, il a des objets à construire, etc. Mais il va aussi à la découverte d'une certaine d'un certain flou, et cette démarche de connaissance, elle est une démarche d'imprégnation, une démarche de, d'écoute, d'attitude, d'interrogation. Elle n'est pas a priori une démarche effectivement de politique au sens militant, de poser déjà un discours sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc ça, je pense que c'est assez fondamental, parce que, et vous, vous ressentez aussi ça dans votre démarche de documentariste, cette idée effectivement que le cinéma est un outil pour aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Quelle va être sa rencontre? On ne sait pas trop, et c'est précisément ce qui fait l'intérêt effectivement de la démarche documentaire. Alors après, il faudrait peut-être rentrer dans une fausse opposition, comme on oppose une fausse opposition sociologie-ethnologie, comme on fait une fausse opposition subjectivité-objectivité, on pourrait faire une fausse opposition documentaire-fiction.
Eduardo Lamora, vous vouliez réagir aussi.
Une petite précision, vous parliez de l'objectivité. Alors voilà, l'objectivité n'existe pas. Parce qu'en fait, à partir du moment où quelqu'un prend une caméra ou un micro, il va le placer de toute façon d'une certaine manière qui ne sera pas objective. Alors voilà, si vous pouvez donner la caméra à chacun d'entre nous sur la table, il la mettra dans un sens ou dans l'autre. Donc, où est l'objectivité là-dedans?
Alors voilà. C'est ce qu'on appelle le point de vue, en fait.
C'est ce qu'on appelle le point de vue.
Ce qu'on appelle le point de vue. Alors,
alors après, c'est vrai que la démarche d'un ethnologue, comme tu as très bien dit, s'appuie d'abord sur un discours. Et sur le terrain, je suppose, parce que je suppose qu'en fait, il essaye de fournir son discours à l'aide de ce qu'il va trouver sur le terrain. Ou alors, j'espère qu'il aura des surprises, je ne sais pas, mais sans doute que oui. Mais...
Enfin, de fournir un discours, c'est-à-dire de je comprends pas très bien le
disons de
discours. D'avoir un propos, tu veux dire, plutôt
sur... Oui, c'est-à-dire ouais. qu'il faut que la caméra enregistre ce qui a été prévu dans son projet.
Oui, de ce que l'ethnologue a travaillé sur le terrain avec ses informateurs. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est quand même assez souvent le cas dans le cinéma ethnographique dit scientifique, ouais. C'est que le film arrive après enquête. C'est-à-dire qu'il doit correspondre assez souvent à ce qu'il a été rencontré dans les démarches d'enquête auprès des gens chez qui travaille l'ethnologue. Alors ça pose un problème parce que, là encore une fois, où est l'objectivité? Elle n'y est pas. C'est vraiment totalement subjectif, c'est totalement contrôlé par l'ethnologue. Alors en plus, ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est est-ce que c'est lui qui tient la caméra, est-ce qu'il a un opérateur, comment ça se passe entre l'un et l'autre, parce que ça aussi c'est important, un certain nombre d'ethnologues ne font pas leurs propres images, elles sont faites par d'autres. Maintenant, de plus en plus, ils font leurs propres images. Bon, et ça aussi, il faut expliquer dans le temps que tout de même le matériel s'est sérieusement amélioré, est léger, et ce qui fait qu'aujourd'hui on peut travailler totalement de manière autonome, hein, du début jusqu'à la fin. Et ça pose la question, bon, bah, en fin de compte, du passage de l'écrit au passage de l'image. Et souvent, on rencontre des films qui sont plus des films écrits comme si on faisait un article que des films qui vont vous raconter une histoire et dont on raconte l'histoire en image. Et ça, c'est l'un des problèmes que l'on rencontre assez régulièrement quand on fait la sélection des films. C'est-à-dire que le problème d'écrire en images, ça demande une sensibilité particulière, ça demande une participation aussi particulière, un angle d'attaque, de se remettre aussi en question soi-même pour se dire « là, je dois penser de l'image, je ne fais pas un article ». Et ça, c'est tout le problème qu'on rencontre assez souvent quand même dans le documentaire type ethnographique.
Et vous, Eduardo Lamora, alors votre film, au moment où on parle, il est en train d'être diffusé exactement à la salle à côté, au cinéma Nestor Burma. Quel est votre point de vue alors sur cette façon de filmer, la question de la subjectivité, qui est peut-être totalement une fausse question d'ailleurs?
Moi, je ne peux pas m'associer à la démarche que mes collègues ici ont décrit. Parce que moi, j'ai commencé à faire du cinéma mais pas des cinémas ethnographiques, des cinémas parce que je voulais changer le monde, je voulais changer la vie. Et écoutez, c'est démesuré ça. Je me rends compte de ça.
C'était ambitieux, c'était ambitieux.
C'est la folie, vraiment.
Et ça marche ?
Et non, ça ne marche pas, du tout. Ça ne marche pas. Mais c'était beau, l'expérience de cette folie. Parce que c'est cette folie qui me fait resituer les objectifs qu'on discute ici. C'est quoi un film d'ethnographie ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on va chercher ? Et c'est pour ça que j'insiste sur la subjectivité de faire un film, bon, faire un livre, faire un enfant, et n'importe quoi. Et c'est pour ça que je questionne la démarche, si je ne questionne pas la démarche militante, mais je questionne la démarche scientifique. Parce que dans les sciences sociales et dans l'art, on a été taraudé toujours parce que les sciences exactes, on arrivait à avoir des méthodes pour prouver les choses. Objectivement, des choses qu'on peut voir sous un microscope ou par statistique. Et là, il y a eu les câbles se sont brouillés là parce qu'on a voulu, dans les sciences sociales et dans l'art, dans le cinéma, d'arriver à cette comprobation objective, ce qui est, en certaine façon, dénaturer les moyens. Dénaturer notre regard. Et c'est pour ça que je parle de tourner la caméra vers moi-même. Je pense que tout l'univers, la planète, si je ne dois pas être trop ambitieux, toute la planète est dans moi-même. Et quand j'étais au Guatemala pour faire un film sur les Mayas, il y a 10 ou 15 ans, et j'étais en train de filmer les Mayas, mais j'étais en train de me filmer à moi-même, à ma parole, à mes rapports avec ces gens-là, pour éliminer exactement les côtés objectifs. Et je pense que c'est ça la généralité de la personne qui a créé ce festival, Jean Rouge, j'insiste sur ça, c'est lui qui a bouleversé là beaucoup de choses. Parce que c'est lui qui a dit qu'il faut devenir, être une partie de ce cinéma. Et c'est pour ça que objectivité, non, scientifique, ça ne me convainc pas non plus. Et c'est pour ça peut-être que vous avez changé le nom du festival.
Effectivement, ça fait. C'est une bonne question. Et c'est vrai. C'est que. Pareil, c'est la même. Enfin, ce mot ethnographique, ce mot. Ce qualificatif de scientifique, il y a des moments, c'est vraiment encombrant. Et. Parce que ça veut dire beaucoup de choses, mais en même temps, c'est plein de contradictions. Et en cherchant cette année, parce que bon, on m'a demandé de faire pas mal d'émissions de radio, notamment d'interviews, je me suis dit, mais comment trouver une expression par rapport au film que l'on projette ? Et par un hasard extraordinaire, je lisais un petit article merveilleux de Georges Didier Huberman sur un documentaire fait par une réalisatrice française à Calais sur les immigrés afghans. Et lui, il a employé l'expression de parcelles d'humanité. Et en fin de compte, c'est ça qu'on montre dans notre festival. Ce sont des parcelles d'humanité, des moments, des gens. Et là, mais vraiment des gens qui se nomment, qui sont terriblement présents. Et j'ajouterai aussi une autre image, c'est que les films que l'on projette, ils font lever les yeux, un peu comme ce que disait Walter Benjamin, c'est-à-dire que quand une image, elle vous frappe, quand elle vous rentre dans la tête et que vous ne pouvez plus l'oublier, c'est parce que vous avez levé les yeux. Et je crois que le but de notre festival, un, c'est de projeter donc ces parcelles d'humanité, et deux, de faire lever les yeux des spectateurs qui mangent cette image, qui la conservent, et que ça leur fasse travailler l'esprit, et qui se posent des questions, qui soient là à nourrir le débat. Et ça, si on y arrive, c'est gagné.
Je prends le pari de dire que même un film de Clint Eastwood est un film ethnographique.
Bien sûr.
Ah ben ça, il y avait une grande expression de Leroy Gourhan ou de Marcel Mauss.
Non, Leroy Gourhan.
C'est Leroy Gourhan, hein, par rapport au cinéma américain, même de série B, il y a de l'ethnographie dedans.
C'est Mauss.
Ah, c'est Mauss. Ouais. Voilà. J'y connais bien quoi là-dessus.
Non, mais. Ouais, ce que je voulais revenir par rapport à cette question de scientifique, je crois qu'il ne faut pas non plus avoir honte d'être scientifique ou ethnologue. Enfin, il y a aussi parfois un peu dans le milieu ethnologique d'espèces d'être à la mode, d'avoir peur de passer à la trappe, d'être, de passer de mode, de dire qu'on est ethnologue et scientifique et de ne pas l'assumer. Alors, moi, ce que. Après tout, peut-être qu'il n'y a pas d'ethnologie avec des ethnologues, et ça rejoint un peu cette idée effectivement de regard porté sur l'autre qui, effectivement, l'ethnologie après s'institue en discipline, etc., mais pour des raisons plus politiques, de politique scientifique, mais on confond souvent scientifique et scientisme en fait. Donc le scientisme, c'est cette espèce d'idéologie qui voudrait dire que tout peut se comprendre et peut se résumer par la science. Non, bon, ça fait beaucoup de mal à l'esprit scientifique, mais l'esprit scientifique en soi, je ne vois pas pourquoi on pourrait le... Il n'est pas si intolérable que ça, après tout. Il n'y a pas de honte à essayer de vouloir comprendre quelque chose qui n'est pas de notre monde et qui, voilà, on peut aller très loin, on peut aller très près, mais cet objectif d'essayer de comprendre, peut-être que c'est prétentieux, mais je pense que c'est nécessaire dans un monde où, effectivement, on a besoin d'écouter, d'entendre et de prendre le temps de comprendre l'autre. Et je crois que le cinéma est un moyen de porter ce regard avec attention. Et tous les films qui ont été sélectionnés ici sont à la fois des films très, très personnels, qui répondent ou pas, alors ça c'est à la catégorie de films ethnologiques, mais en tout cas des films peut-être pas engagés, mais impliqués dans une subjectivité, un regard, un parti pris, dans des choix. Et des choix qui sont de raconter des histoires de rencontres avec d'autres, et encore une fois, de choisir ce cinéma pour les partager encore avec d'autres dans une salle, et que les gens en discutent, en rediscutent, etc. Voilà, donc c'est une idée qui était proche de Jean Rouge, bien évidemment.
Exactement, parce que Jean Rouge employait l'expression de partager. On partage le cinéma. Hein, partager ses films, donc d'ailleurs on se promène comme font Blandine, Frédéric ou Eduardo, leurs films sous le bras, de festival en festival, de salle de cinéma en salle de cinéma, pour partager avec le public. Et ça c'est quand même une des priorités quand on organise aussi un festival, c'est de partager tous ces films qu'on a aimés et on veut donc les présenter aux spectateurs.
On va essayer justement de partager un petit peu avec les auditeurs des extraits de films. On a choisi un extrait du film Chef qui a été diffusé hier, qui je pense est au cœur du débat que nous avions tout à l'heure là sur la question de l'objectivité, l'implication, le cinéma est-il militant dans ce genre de documentaire. Alors vous disiez que certains films peuvent faire dresser les yeux ou lever les yeux, on va essayer de faire dresser les oreilles des auditeurs. C'est une bande son donc il manque les images, mais je pense que ça parle tout seul.
C'est un détail.
Mais c'est tes habits, toi, d'abord, avant tout.
Comment ?
Les habits, tout. Portazo. Cédric.
Quelqu'un dans la foule a demandé à Kat : es-tu un être humain ou un animal ? Je suis humain, a répondu Kat. Et tu voles ? Lui a-t-on demandé.
Comment ça ?
L'homme a poursuivi : non, petit, tu es un animal. Même un cadavre te dépasse. On respecte un cadavre, mais pas un voleur. Et surtout pas un petit voleur.
Comment?
Tu n'as aucun droit de les tuer. Aucun droit.
Pour le fâcher, déjà.
L'homme n'est pas une poule qui vole là-bas. Voilà. Parce que pour les gars au chef de quartier, t'as pour les gars gendarmerie, c'est fini.
Donc c'était un extrait de Chef de Jean-Marie Thénault. De Jean-Marie Thénault. Cet extrait de Chef de Jean-Marie Thénault. Est-ce que Gilles, tu pourrais nous détailler un petit peu la scène qu'on a entendue, une scène très forte au moment de ce film-là. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce qui se passe à l'écran?
Ce qui se passe à l'écran, si mes souvenirs sont bons, c'est une scène en fait de jugement public où on est dans un village au Cameroun et un des jeunes du village en fait vole une poule et des poussins et jugé sur place en fait par la population. Donc le propos du cinéaste qui s'appelle Jean-Marie Thénault et le film s'appelle Chef est une réflexion sur la question du pouvoir en Afrique. Une question qui n'est pas seulement située du point de vue sur le plan de l'État, mais du point de vue du quotidien, c'est-à-dire la gestion de la relation au pouvoir dans des couches de la population qui sont effectivement des couches villageoises. Et il pose d'une certaine manière la question de la reproduction de ce pouvoir, qui est de la violence en fait symbolique et physique que subit cette population du Cameroun depuis fort longtemps. Et oui.
Non, mais je voulais dire que c'est vrai que ce qui m'avait étonné, on parlait tout à l'heure de la façon dont ça allait orienter un débat à travers cet exemple-là. On voit que quand on est spectateur face à cette scène, donc c'est un jeune de 16 ans qui se retrouve pris à partie par toute une foule et on sent bien qu'on est à deux doigts d'un lynchage public et c'est assez dramatique. Ils le font se déshabiller, il prend des coups, il y a une personne qui essaye tant bien que mal de calmer la foule mais il n'arrive pas réellement à calmer la foule. Au bon moment, ce vieux monsieur qui dit arrêtez de le battre, dit ben, si vous continuez à le battre, je m'en vais. Il s'en va. La personne qui va venir s'interposer pour éviter le lynchage est le réalisateur lui-même. Donc on le voit poser la caméra, il l'explique. On imagine ensuite à peine ce qui a dû se discuter, puis on voit la caméra se rallumer, ce jeune qui s'en va. Donc on est vraiment pris par cette émotion et cette tragédie qui se passe à ce moment-là. Et puis c'est pour ça que c'est vraiment du cinéma militant, à mon avis, et c'est pour ça que je voudrais avoir votre réaction. Et puis on bascule sur. Ce n'est qu'un petit vol, c'est un vol de poussins, de quatre poussins et une poule. Et dans le même temps, juste à côté, il y a une chefferie avec une grosse fête où on voit des gens importants du Cameroun, des ambassadeurs, des ministres qui partent. Et il fait immédiatement un parallèle entre ce jugement public terrible face à ce voleur de poule et le fait qu'il y a des voleurs au Cameroun aujourd'hui. Et là, d'un coup, on glisse sur le président en exercice encore aujourd'hui, Paul Biya, qui a volé des fortunes au Cameroun et qui, lui, n'est pas du tout embêté de la même façon par son peuple. Et donc, en ça, moi, je trouve que c'est plus qu'un point de vue. Moi, j'ai envie de dire que j'étais d'accord avec le point de vue développé par le réalisateur, M. Thénault, mais il y a quand même clairement une volonté d'orienter le discours. Bien Alors, sûr. Est-ce qu'on est dans un film... On revient sur le débat tout à l'heure. Est-ce qu'on est dans une sorte de neutralité ou est-ce qu'on oriente quand on fait ce genre de
mise en perspective? Je pense que Jean-Marie Thénault n'est pas ethnologue et que lui, cette question de l'objectivité, de subjectivité, c'est pas du tout une question qui se pose. Donc, je pense que cette question-là qui se pose, c'est vraiment une question scientifique, en fait. Donc, par contre, la question qu'on pourrait poser et qui serait très intéressante d'un point de vue même sociologique et anthropologique et d'histoire du cinéma à poser aux réalisateurs, pourquoi proposent-ils alors qu'ils sont... qui font des films militants, leurs films dans les festivals de cinéma ethnographique. Ça, c'est une vraie question.
Mais là, il y a une autre question, que ça va au-delà de l'ethnographie. Peut-être. Parce qu'un petit est frappé, etc., parce qu'il a volé un poulet. Je ne peux pas éviter de penser à l'histoire qui m'est racontée une photographe américaine très célèbre, qui a fait, comme photographe seulement, qui a fait la guerre de Libéria. Et il était choqué parce qu'il s'est rendu compte à un moment donné que là, on était en train de tuer des gens, mais que les tueurs avaient un plaisir d'être en face de la caméra. Et que quand il s'est rendu compte que le fait d'avoir une caméra face aux tueurs, ça encourageait, excitait les messieurs avec les machettes ou avec la Kalachnikov. Je n'ai pas vu le film kenyan d'hier, mais camerounais. Mais vous vous rendez compte de la matière complexe de laquelle on est fait, et des risques que prend un cinéaste ou quelqu'un avec une caméra. Et c'est pour ça que dans mes tournages, je n'ai fait jamais un tournage avec des caméras un petit trop grandes, très bonnes. Parce que je ne peux pas décrire essayer de faire une hypothèse sur ça, mais c'est très complexe. Et c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'être très humble quand on prend une caméra ou en prend un ordinateur ou un Kalachnikov, je ne sais pas. Et ça, c'est une chose à ajouter dans la réflexion sur ce qui est un film endographique et notre faiblesse ici et là et partout face à des appareils comme une caméra ou une Kalachnikov. Hein. Un caméra à l'épaule, c'est comme un bazooka.
D'ailleurs, en anglais, ça se dit shooting.
Shooting. Parce qu'à Cuba, quand tu mets un caméra face à une personne et il voit qu'il y a un caméra plus un microphone, cette personne ne veut pas parler. Parce qu'on est dans un contexte où il y a des risques. Et on ne peut pas filmer à Cuba avec un caméra si on veut avoir un témoignage vraiment ethnographique, ethnologique. On ne peut pas avoir un caméra à l'épaule et on ne peut pas avoir un microphone. Les choses sont très compliquées. C'est pour ça que l'humilité, dans le bon sens, pas dans le sens chrétien, il ne faut pas se croire Dieu, ou un peu moins que Dieu, parce qu'on peut faire du cinéma. On peut faire un film. Un film, pour moi, c'est le métier plus beau du monde. C'est le plus beau du monde. Je n'explique pas pourquoi, c'est une chose privée. Mais il faut être humble quand on a un appareil si magnifique comme une caméra.
Vouloir changer le monde humblement, si je te comprends bien.
Non, aujourd'hui, je ne veux pas changer le monde. Pas humblement, pas... Non, de aucune façon.
Il s'en fout, il l'a dans lui, le monde, il a dit tout à l'heure. Mais moi, en fait, juste une petite question, parce que du coup, un film ethnographique, par rapport à un travail du sociologue, il y a le carnet de terrain, donc où il note les entretiens et au jour le jour, qui rencontre, qui voit et tout. Mais du coup, un film ethnographique, de ce que je comprends, vu l'effet d'une caméra sur les gens, avec surtout le monde des médias qu'on a et tout ça, du coup, ça peut pas un film ethnographique ne peut pas être un carnet de terrain d'un ethnographe.
Mais tous les réalisateurs font des notes dans les tournages, pas nécessairement les ethnographes. N'importe qui fait un film doit prendre des notes tout le temps de ce qu'il filme.
Ouais, mais sauf qu'un sociologue, il fait lire ses notes. Comme par exemple, les travaux de Stéphane Beau ou autre, on a la possibilité de voir les carnets de terrain de ces gens-là, tandis que l'ethnographe, lui, présente un film. Et qui n'est pas assez différent.
Non, pas seulement. L'ethnographe aussi, on peut retrouver ses carnets. Hein. Aujourd'hui, on a accès au carnet de Lévi-Strauss, comme on a accès au carnet de Jean Rouch.
Non, mais là, vu qu'on parlait des films, en fait.
Oui, mais en même temps qu'il fait un film, il y a des notes qui sont prises. Je crois que ce n'est pas si caricatural que ça. Il faut sortir de toute cette image d'Épinal qui est un peu trop, véhiculée. Mais.
Moi, je veux bien sortir, mais je ne vois pas d'où, alors vous expliquez.
Mais c'est une accumulation. C'est tout un savoir qui se constitue. Et à un moment, alors on sait ou on ne sait pas, mais à un moment, il y a le passage à l'image. C'est-à-dire qu'on a acquis par des années. C'est le cas, par exemple, du film Indopino, le premier film qui a été projeté hier. Martine Journet et Gérard Nougarol ont passé, on va prendre un exemple, hein, comme ça va permettre aux auditeurs de mieux comprendre. Ils ont passé à peu près une dizaine d'années à aller régulièrement dans les célèbres rencontrer des chamans. Bon, ils ont rencontré ces chamans Wahana, et puis au fur et à mesure, ils ont tissé des liens, il y a eu des complicités, ils ont commencé à prendre des notes, aujourd'hui ils en sont même à un dictionnaire qui fait des centaines et des centaines de pages. Bon, et tout d'un coup, au bout de 10 ans, ils sont passés à la caméra. Ils ont senti que là, il fallait non pas noter sur le papier avec le crayon, non, là il fallait passer à l'image. Et pourquoi ça? Parce que, un, il y avait la complicité, un, il y avait eu la patience, la construction de toute une relation, de tout un savoir, d'échange, hein, encore une fois, de partage. Et paf, il y a eu le déclic. Mais Rouch, il a mis des années avant, en fin de compte, de passer à la caméra. Hein, Jean arrive au Niger en 41, il prend la caméra pour faire son premier documentaire ethnographique. Alors là, bon, ça c'est comme ça qu'on l'appelle, enfin qu'il est qualifié, en 47. Donc il faut du temps. On part pas sur un nouveau terrain en se disant voilà, je vais faire mes nouveaux articles sur ce nouveau terrain et je vais faire un film sur ce nouveau terrain en même temps. C'est pas comme ça que ça se fait. On n'est pas dans le reportage. Voilà, donc t'as la patience aussi.
Du coup, ça complique la position du film.
Je peux. Alors, je vais complètement encore compliquer les choses, moi. Parce que tout à l'heure, je posais la question de savoir comment le cinéma, finalement, pouvait remettre en question la tradition, les habitudes, les concepts de l'ethnologie. Et pourquoi ce cinéma n'aurait pas ce rôle-là, au fond, quoi. Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de pratiquer le cinéma pour réinterroger l'ethnologie et l'ethnologie pour réinterroger le cinéma. Donc c'est une espèce de boucle comme ça un peu vertueuse, un peu prétentieuse peut-être aussi, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est très difficile en fait de voir qu'est-ce qui questionne, comment ces champs se répondent. Mais on peut aussi, alors je prends carrément le contre-pied de cette idée de filmer seulement une fois que la relation de confiance est établie, etc. On peut aussi faire le parti pris de partir faire un film, d'avoir l'idée d'aller faire un film et de voir effectivement ce que cet objet film qui est préconstruit, qui se préconstruit chez le cinéaste ethnologue par exemple, comment la caméra devient un enjeu en fait d'échange sociologique. Et à travers ces négociations de rôle, de je filme ceci, mais je veux pas que tu filmes cela, parce que ça me représente d'une mauvaise manière, etc. On apprend en même temps qu'on filme, par exemple, l'univers dans lequel on débarque. Alors, ce qui ne veut pas dire pour autant que le film sera pensé comme un produit final et qu'il soit diffusé, en fait. Mmh. On peut aussi penser la caméra comme une sorte de révélateur, voilà, hein, un peu comme en psychanalyse, il y a effectivement une sorte de manière d'être, de révéler des choses et d'essayer d'analyser ces choses d'un point de vue ethnologique ou d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue politique, esthétique, enfin voilà. Donc c'est une sorte d'objet en fait qu'on introduit dans une relation qui est codée et qui là repose effectivement la question de la relation à l'autre d'une manière un peu distanciée, décalée, et qui permet à la fois d'avoir un regard anthropologique et un regard de cinéaste aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'intéresse, c'est-à-dire de faire évoluer les champs, confronter les champs du cinéma et de l'ethnologie en permanence. Parfois, il n'en ressort rien, mais pourquoi pas.
En tout cas, on va se faire une petite pause musicale, mais je voulais rajouter que on a une conversation assez intellectuelle, assez universitaire. Mais ce qui me paraît important de rappeler pour les auditeurs, c'est combien ces films-là, quand on les voit, on prend tout simplement beaucoup de plaisir à les voir aussi, sans avoir. Là, on est en train de les décortiquer.
Ah, il est en train de sous-entendre que c'est chiant.
Ce que je veux dire, c'est que là, on cherche à les décortiquer et à comprendre la démarche, mais avant tout, c'est un objet aussi artistique. Et
mais c'est aussi du spectacle. Enfin. Voilà, non, on parle pour nous peut-être, Blandine et Frédéric. Pour nous, c'est cette notion du spectacle qui est importante, en fait. C'est pas parce que c'est un film documentaire qui doit apporter des informations ou documenter sur un sujet, sur un terrain. Il faut que ce soit aussi un spectacle. C'est-à-dire, c'est pas comme bon, un livre. C'est quelque chose qui peut être plus intellectuel, comme ils le disent, plus scientifique, plus ennuyeux aussi, mais qui peut avoir un intérêt très fort. Mais un film, c'est quand même c'est de l'image et du son. Et l'image et du son, c'est ce qui fait le cinéma. Et ça doit absolument captiver le spectateur. Et je pense que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe entre le ce qui se passe sur l'écran et la personne qui le regarde.
C'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de la démarche préalable, d'une enquête, on parle du terrain, mais on oublie aussi de parler du montage, qui est quand même une phase très importante. Mais d'ailleurs, on en parle, on est en ce moment en train de monter un film. Je sais que Eduardo est aussi en train de monter. Et c'est vrai que c'est l'écriture aussi. C'est le moment où le film va trouver son souffle, son rythme. Et, et ce qu'on aura comme matériel pour apprendre des directions très différentes.
Et ça, c'est peut-être ce qui fait la grosse différence entre le cinéma de fiction et le cinéma documentaire, c'est que vous avez un travail passionnant de montage en documentaire, en fiction. Le montage est quasiment fait, parce que vous respectez finalement le scénario, vous avez des dialogues qui sont écrits, enfin vous avez finalement assez peu de liberté au montage, enfin vous vous permettez des petites inversions peut-être de séquences, etc. Mais le scénario est là déjà, vous respectez le scénario, il faut le respecter.
Et c'est la question que tu signales sur les côtés spectacle. Le cinéma est plein de ficelles. Et on est conscient de ça. Et on les utilise de façon quelquefois même... bon, je ne vais pas le dire. On utilise les ficelles à fond. Et c'est une vraie fabrication, dans le sens plus physique qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça que
c'est le côté de la matière.
C'est une matière très malléable.
Parfois aussi, parce que c'est aussi des choix, beaucoup de choix à faire.
Alors, ce qu'on discutait un petit peu aussi avec Eduardo tout à l'heure et avec Blandine et Frédéric et la question de l'écriture du scénario, en fait, parce qu'on pose beaucoup la question de comment s'écrit un film avant le terrain, par exemple. Est-ce que les réalisateurs écrivent leur film en documentaire, soit pour chercher des fonds, pour être produit, etc. Et Eduardo avait une très très belle définition que j'appliquerai aussi finalement à l'ethnologie et au cinéma anthropologique. Il disait en fait, ce que j'aime bien dans le documentaire, c'est que le scénario est une vraie utopie. Et que cette utopie, en fait, elle permet d'écrire, de réécrire le monde, puisque c'est ce que vous vouliez faire et changer le monde. Et qu'au fond, la réalité nous rappelle toujours à l'ordre. Et que le film qu'on fait n'est jamais celui qu'on voulait qu'on fasse. Et qu'on voulait faire.
Et que les utopies sont là et sont très importantes. Mais ils sont importants dans la mesure où on ne peut pas la réaliser. Et c'est le destin d'un scénario. Et je me méfie de mes scénarios, mais quand je me mets, quand je suis obligé à faire un scénario, je triche. Je sorte mes ficelles et je construis une chose là parce que je dois convaincre un fonctionnaire ou un décideur. Mais ça, c'est l'utopie qu'il faut. À laquelle il ne faut pas renoncer, mais en sachant que c'est l'utopie, c'est pas pour réaliser, parce que en la réalisant, après il y aura, c'est sûr, des cauchemars dans la réalité.
on va se faire une pause, mais on va se faire une pause musicale, puis on se retrouve et on va arriver à la conclusion de l'émission, déjà. Et Eduardo est toujours avec nous, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Chérie,
je t'aime.
si on t'a fait. Non, ta vie vive, c'est me dit confiance. Non, elle a ma guison. Olhar de nos criança, ta torna brilhar de inocência. E na noite se esgritaiada, temporal talvez da mainã. Na brandura e calmaria, nós amor devem descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor devem descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta.
On est toujours sur Radio Clapas, Wakadi, une émission spéciale pour le festival du film ethnographique à Montpellier. Il nous reste quelques minutes à peine avant la fin de l'émission, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et alors Eduardo Lamora a dû nous quitter finalement, contrairement à ce que je disais, il était resté, mais il a dû nous quitter pendant la pause musicale. La dernière question qu'il faudrait qu'on aborde, c'est la question de pourquoi finalement ce festival a été décentralisé, pourquoi à Montpellier, pourquoi dans un cinéma municipal. Pourquoi une invitation finalement grand public? Alors j'ai bien compris, Monsieur Pelé nous l'a bien dit, y compris pendant la pause musicale, que le film ethnologique, et on est assez convaincu, était à destination de tout le monde. Hein. C'était pas qu'une affaire de spécialistes, et on a pu le voir. Je sais pas, Gilles Rémillet, vous pouvez.
Non, mais je crois que d'abord je remercie Laurent du comité du film ethno d'avoir eu cette idée. De vouloir faire tourner en fait un peu les films, qu'ils ne soient pas vus qu'une fois à Paris pour les Parisiens, et que effectivement avec cette idée de partager les films, je crois que c'est bien que qu'on puisse les faire voir ailleurs, et qu'en région aussi on profite de ce point de vue documenté ou documentaire sur le monde. Et l'idée c'était dans la sélection qu'on a faite d'une dizaine de films, de montrer en fait des choix à la fois esthétiques, des choix de réalisation très différents, mais qui posent des questions en fait d'actualité. On a parlé de la question du pouvoir en Afrique, on a parlé de la question avec Blandine et Frédéric de la question du nucléaire, on a parlé de la question de la maladie, des constructions de la maladie, on a parlé avec Eduardo avec son film de la question de Cuba, de l'exil, du retour, enfin, etc. C'est-à-dire en fait des films qui nous parlent et qui parlent à tous. Et je crois que au-delà de la catégorie du film ethno, documentaire, fiction, je sais pas, je crois qu'on partage tous des émotions, et c'est Rouche avait cette espèce de disait toujours que le cinéma en fait c'était
l'émotion. C'est de l'échange, c'est du partage, et puis je dirais aussi, enfin, parce que tu posais la question de savoir pourquoi venir à Montpellier. Bon, on est allé à Toulouse, on va peut-être aller à Aix-en-Provence, à Strasbourg. C'est mon côté provincial, parce que bon, Paris c'est bien gentil, mais c'est que quelques. Ah bon, c'est un groupe, quoi, c'est un petit groupe, mais c'est pas suffisant. Donc il faut que ces films, qui malheureusement n'ont pas la chance toujours aussi d'être bien diffusés, modestement, humblement, comme aurait dit notre ami Eduardo, on essaye de les diffuser le plus possible et un peu partout. C'est surtout ça. Et pour tous, pour le plus grand nombre.
Alors pourquoi le Nestor Burma? Parce qu'effectivement c'est un cinéma municipal, et qu'il me semble qu'une des missions du service public c'est de proposer une réflexion critique au plus grand nombre, et qu'effectivement ces films nous posent des questions, et les réalisateurs sont là aussi pour y répondre, mais ils n'ont pas toutes les réponses. Et ce qui est intéressant, c'est que les réponses à trouver sont à chacun de nous de trouver une part de réponse à ces questionnements qui sont proposés, aux questionnements audiovisuels qui nous sont proposés.
Ça, c'est ce qu'on a remarqué, parce qu'avec Wakadi, on n'a pas trop l'habitude de faire des émissions sciences humaines. On a vu que les sciences humaines apportaient beaucoup de questions, effectivement. Non, mais c'est vrai, c'est une question amène une autre question. C'est intéressant.
On arrive à la fin de l'émission. On remercie. Ah oui, on entend la petite musique normalement avant que j'ai commencé à parler trop tôt, quoi. Mais je recommence. Donc on arrive donc à la fin de cette émission. On remercie tous nos invités, les réalisateurs en plateau. On n'a pas finalement parlé plus avant de votre film. Frédéric Cousseau et Blaine Inuc. Mais bon, voilà, votre présence était très bien. Voilà, alors, c'était très bien, mais vous en aviez déjà parlé juste avant, donc oui, peut-être, voilà. Merci. Vous vouliez dire un dernier mot, c'est ça?
Oui, un dernier mot. Bah, c'est-à-dire que pour retrouver les films de Blandine, de Frédéric, d'Eduardo et de 23 autres réalisateurs, le comité du film ethnographique avec les éditions Montparnasse ont sorti un coffret qui s'appelle Filmer le monde, qui sont les prix du festival Jean Rouch depuis 30 ans. Il y a 25 films, plus un film inédit de Jean Rouch en DVD, Les Fils de l'eau.
On le trouve où?
Dans toutes les bonnes librairies.
Un Soran,
voilà. Et donc aux éditions Montparnasse, ça s'appelle Filmer le monde.
On remercie évidemment aussi, donc on vous remercie les organisateurs du festival, le cinéma Nestor Burma de l'accueil. Vous pouvez retrouver cette émission sur Radio Clapas évidemment et sur le site internet de l'association Wakadi. On a quelque chose à dire, wakadi.fr. À bientôt et comme disait Ramon, restons vigilants. Au revoir.
Merci.